bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 22 septembre 2014, avec Jean-Pierre et Michel dans les studios et Robert en duplex. Autant dire une équipe complète pour aborder l'actualité internationale tout d'abord, avec peut-être un premier sujet, le sommet de l'ONU sur le climat qui démarre demain matin, qui a donné l'objet, qui a été l'objet d'une assez grande mobilisation hier, pas tellement à Paris, mais surtout à New York, 310 000 personnes. Un sommet où il s'agit de trouver 10 milliards de dollars pour aider, paraît-il, les pays développés à développer leur économie en respectant des critères écologiques. On appelle ça un fonds vert pour le climat. Alors, obtiendra-t-on 10 milliards de dollars pour cet objectif ? Canu, quant à elle, cherche 100 000 euros pour s'acheter un local. Peut-être que les mêmes pourront contribuer aussi. Robert, à toi.
Oui, on rappellera simplement que le précédent rendez-vous de Copenhague en 2009 s'était terminé sur un échec relatif, à défaut d'être un relatif échec, que le pessimisme était de la règle, et ça a été prouvé puisque la pollution a continué d'entretenir par différents facteurs l'augmentation des températures et les critères d'alerte sont toujours au rouge. Le prochain sommet de l'ensemble des pays qui donc ferait suite à Copenhague 2009, c'est donc Paris décembre 2015, COP21, on l'appelle comme ça, qui réunira donc tout ce que la planète Terre contient de spécialistes, d'ONG, de non-spécialistes, de gens politiques, de lobbies, et on sait que c'est les lobbies qui à Copenhague étaient apparus les plus forts et qui avaient fait finalement échouer l'efficacité des ripostes qui pouvaient être mises en route. On va essayer de faire en sorte que, quand je dis on, c'est ceux qui se battent contre la politique des lobbies. On a vu par exemple qu'à Bruxelles, ils ont force loi, et on voudra arriver qu'à Paris, ce ne soit pas le cas. Ça va être sans doute difficile. Alors hier, il y a eu cette formidable journée de mobilisation sur l'ensemble de la planète. On n'a que quelques chiffres, notamment le chiffre le plus important, c'est celui qui est annoncé à New York. Plus de 300 000 personnes se sont retrouvées, une mobilisation jamais vue sur un sujet très difficile, puisque là encore, la pression des lobbies industriels et traditionnellement productivistes américains faisait que tout ce qui concernait le climat était plutôt mal vu par ces lobbyistes. Et il est évident que Obama tente tant bien que mal de faire passer quelque chose qui amènerait les États-Unis, qui sont le plus grand pollueur au nombre d'habitants. On rappelle souvent que c'est la Chine, mais la Chine, avec son milliard d'individus, pollue moins que les États-Unis avec ses 300 millions de citoyens. Donc Obama a tenté de reprendre les efforts qui avaient été faits par Al Gore, mais comme Al Gore avait raté la marche suprême de la présidence américaine, il était resté finalement un excellent convoyeur pour tenter de faire prendre en compte par les Américains la nécessité de réduire la pollution chez eux et donc de participer à cette bataille pour le climat. New York, mais partout, Londres, 40 000, 30 000, Berlin, où c'était plus impressionnant parce qu'ils ont fait un rassemblement silencieux. Les New Delhi, on n'a pas de chiffres pour les pays latino-américains, Canada, Québec notamment. C'est que Les Latino-Américains sont très branchés sur cette question de la pollution et de la lutte contre la pollution, notamment tous ceux qui sont dans une optique progressiste, à part donc le Pérou et la Colombie qui sont plutôt restés proches des positions américaines telles qu'elles sont encore aujourd'hui appliquées. Voilà, alors quelques mots, bon, on ne reviendra pas sur le sujet, donc comment s'est passé en France, tu l'as dit, entre 5 et 10 000, 10 000 disent les organisateurs, 5 000 dit la police à Paris, les villes, ben, c'est par quelques centaines que ça s'est compté, aussi bien à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, avec quelques notes d'humour, par exemple, je crois que c'était à Toulouse où le slogan principal c'était « Si le climat avait été une banque, eh bien il y a longtemps que les choses auraient changé. Demain, à New York s'ouvre donc une espèce de sommet onusien sur cette question du réchauffement climatique. 120 chefs d'État et de gouvernement seront là, donc les deux tiers des représentants de la planète, donc c'est pas n'importe quoi. Alors, ça sera une grande messe sans doute où tout le monde va dire oui, il faut faire des efforts, on va faire des efforts, mais on n'en entend pas beaucoup. Néanmoins, ce rassemblement doit prendre en compte le développement du mouvement populaire qui, lui, s'enracine durablement sur la planète et qui, lui seul, peut faire réellement évoluer les choses.
Voilà, alors d'autres sujets d'actualité internationale, il y a bien sûr l'Afghanistan, peut-être, qui voit se résoudre, enfin momentanément en tout cas, une crise qui date depuis le 14 juin, une crise de gouvernement après le deuxième tour des présidentielles, où les deux principaux candidats ont tous les deux revendiqué la victoire, Askorani et Abdullah. Un accord est survenu hier qui fait de l'un le président et de l'autre le chef de l'exécutif, ce qui est une sorte de premier ministre, nous dit-on. Combien de temps cet accord va-t-il pouvoir tenir dans un contexte qui est particulièrement compliqué et tendu, aussi bien vis-à-vis de l'extérieur, les Américains, que à l'intérieur, les différentes tendances, tribus et les talibans qui reviennent à l'attaque?
Oui, alors donc, Ashraf Ghani, proclamé par la commission électorale, vainqueur, il a fallu des mois quand même, et de vérifications minutieuses des bulletins de vote pour en arriver à ce résultat-là. Plus sérieusement, on voit bien que les États-Unis, qui sont le parrain de cet État, de fait, voulaient coûte que coûte faire signer donc au nouveau président cet accord de sécurité pour pérenniser la présence des troupes américaines au-delà donc du 31 décembre 2014, date butoir en principe où les forces de la coalition doivent partir. Et pour ce faire, donc, ont un peu forcé la main et Abdullah et Ashraf Ghani, donc, pour que chacun mette un peu d'eau dans son vin et aller forcer un gouvernement de coalition nationale. Il est clair que ce ne sont pas Abdullah et Ghani qui ont décidé en tête à tête de se partager le pouvoir. On les a fortement forcés. On verra effectivement dans le temps ce qu'il en sera donc de ce gouvernement d'union nationale.
On peut penser que ça peut éclater très rapidement.
On peut penser, mais tout dépend si le parrain américain paye bien. Jusqu'à présent, c'est comme ça que les choses marchaient. On a gagné quelque part la paix dans certaines provinces afghanes en achetant donc les chefs tribaux. Et on a, dans le même temps, fait la guerre aux talibans, terme générique, mais sans savoir effectivement ce que ça revêtait, la chasse à Al-Qaïda, cette chasse folle et vaine. Bon, aujourd'hui, on en est au point zéro. Depuis novembre 2001, donc l'intervention des troupes de la coalition, des États-Unis principalement, à aujourd'hui, les choses n'ont pas évoluer dans le bon sens forcément pour les Afghans, même s'ils se sont défaits des talibans, mais la menace talibane reste quand même aux portes des grandes villes contrôlées par le pouvoir.
Oui, parce que j'ai noté que depuis mars, les talibans étaient vraiment repartis à l'attaque. Il y aurait eu 700 attaques, 800 soldats tués, 1400 policiers de tués, à un point que les policiers afghans, enfin, il y a des gens qui démissionnent et ils ont la trouille, quoi, un peu.
C'est le problème de cette police et de cette armée afghane qu'ont mis en place donc la coalition. C'est une armée qui est très peu fiable, qui est là pour la solde. Il est clair que quand vous avez une solde minime, hein, quand vous avez une solde 20 ou 30 fois moins importante qu'un soldat américain qui est à côté de vous, pourquoi vous voulez perdre votre vie ? Il est clair que c'est le manque de fiabilité, et puis le fait aussi que la police, surtout, plus que l'armée afghane, est fortement corrompue, qui explique aussi que les talibans sont toujours, aux yeux d'une partie des Afghans, hein, qui reste quand même très clivée, hein, une population, nous l'oublions pas, qui est encore sur une structure tribale, hein, donc qui voit dans cette région les talibans comme une forme de source de paix sociale, du moins de lutte contre ce fléau qui est donc la corruption généralisée.
Voilà, alors autre sujet éminemment complexe ce soir, c'est celui qu'il faut traiter en un seul sujet, on va dire Irak, Syrie, Turquie, avec cette avancée de, maintenant on l'appelle Daesh, hein, on l'appelle plus l'armée islamique, un nom un peu compliqué en Irak et au Levant, cette armée donc de djihadistes radicaux, qui pousse devant elle, enfin qui surtout envahit une zone de l'Irak, qui pousse donc devant elle les Kurdes qui occupaient cette zone et qui essaient de fuir en Turquie. Turquie où on peut penser qu'il y a une certaine complicité, puisque la libération des 40 otages de la semaine dernière s'est peut-être fait contre un accord avec une espèce de soutien tacite offert à ces djihadistes en échange, qui fait qu'ils avancent de ce côté-là. Et que les Américains, ben, que ce côté-là, c'est tout près de la Syrie aussi, et que les Américains, donc, hésitent pour le moment, bien qu'ils finiront peut-être par le faire, à bombarder les djihadistes sur le territoire de la Syrie, et qu'ils n'arrivent pas à contenir leur avancée, même vers cette frontière turque, où les Turcs sont bien gênés aux entournures, parce que les Kurdes, d'un côté, voudraient aller soutenir leurs compagnons kurdes de la Syrie au-dessus et de l'Irak, et d'un autre côté, ils veulent les empêcher de le faire. Alors, double jeu compliqué dans ces villes. En tous les cas, à peu près 130 000 personnes ont fui leurs habitations pour essayer de se réfugier en Turquie, quoi.
Oui, déjà précisé que dans cette région, au nord de la Syrie, frontalière avec la Turquie, on estime la population kurde à peu près 1 million de personnes, un peu moins, quoi. Donc 130 000 personnes, si les chiffres sont vrais, c'est un exode massif qui a eu lieu ces derniers jours. Ensuite, il faut savoir que les différentes mouvances militaires, parce que les Kurdes dans le nord de la Syrie, qui font partie aussi de l'armée syrienne libre, hein, très chère à Washington, se targuent d'avoir à disposition 50 000 combattants. On voit bien effectivement qu'ils sont pas à même, avec ces 50 000 combattants, de défendre tous les villages kurdes le long de la frontière turque devant cette avancée donc de l'État islamique. Ensuite, sur ce que tu évoquais, savoir l'intervention donc aérienne des États-Unis, enfin de la France. Rappelons juste que la Syrie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Moualem a dit que la Syrie n'acceptera pas d'opération militaire si, au préalable, il n'y a pas donc de coordination avec l'État syrien. Donc, en gros, ce que demandaient au mieux les États-Unis pour intervenir, c'est que le système anti-aérien syrien soit débranché le temps de l'intervention américaine sur les positions de l'État islamique. Or, on voit bien effectivement toutes les possibilités qui peuvent se poser s'il y a un bombardement massif des positions de l'État islamique. C'est le vide sera occupé assez rapidement par les troupes régulières de Bachar al-Assad. Hein. Donc s'il voit les Américains à son compte bombarder l'État islamique, il va de fait occuper ces positions-là assez rapidement, chose que ne va pas permettre Washington. Car c'est à l'encontre effectivement de ses intérêts. Sans intervention au sol, donc comptant uniquement sur l'armée syrienne libre, on voit mal comment les États-Unis vont pouvoir pousser leur pion plus en avant. Donc il est clair que cet engrenage de vouloir frapper sur les positions de l'État islamique dans le nord de la Syrie, à terme, c'est la possibilité que va se donner Washington. Ça paraît vraiment très clair, de frapper sur l'armée de Bachar al-Assad partout en Syrie. On voit bien l'engrenage. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, l'a aussi souligné en disant qu'il est hors de question de ne pas respecter la souveraineté donc, de la Syrie dans cette opération contre Daesh. Donc, il a dit clairement, la lutte contre Daesh, oui, mais au préalable, il faut que Washington s'accorde avec Damas. Or, Washington ne veut plus rien avoir à faire avec Damas, donc on voit aussi là, les limites un peu d'exercice.
Oui, donc c'est pas fini et c'est compliqué quand même.
Et c'est compliqué et les Occidentaux se compliquent la situation. Ils se compliquent la situation de manière à rendre les choses irrémédiables. Et selon le scénario que j'osais évoquer quelques minutes.
Parce que Daesh a un certain soutien de la Turquie, de la Jordanie aussi, à qui ils vendent leur pétrole. Nous dit-on, plus ou moins frauduleusement à un bon prix, quoi. Donc ils tirent des profits de ce côté. Et puis si Daesh, il y a les Kurdes là-dedans, les Turcs ne peuvent pas laisser les Kurdes prendre trop le dessus sur des territoires à la fois presque chez eux et à la frontière. Enfin, on voit pas quelle issue peut sortir de tout ça.
Tu évoquais tout le monde joue un double jeu dans cette histoire-là. Tout le monde joue un double jeu. Les États-Unis, en voulant nous faire croire que la cible première, c'est Daesh, mais de fait, c'est aussi Damas. L'Arabie Saoudite, en voulant nous faire croire qu'elle fait partie de la coalition, alors qu'on sait qu'elle finance et qu'elle arme et qu'elle entraîne grand nombre, effectivement, de djihadistes qui sont aujourd'hui dans l'État islamique. On sait que nombre de combattants formés par les troupes américaines dans les camps militaires jordaniens aujourd'hui, alors qu'ils auraient dû officiellement donc rejoindre l'armée syrienne libre, sont dans l'État islamique aux côtés donc de al-Baghdadi. Donc ce double jeu est total et donc la position d'Ankara, c'est il regarde ses intérêts. À un moment, il veut pas être le danon de la farce, hein, jouer les intérêts américains et que ça se retourne contre lui, parce que de fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans le nord de la Syrie, dans cette zone kurde du nord de la Syrie qui subit donc les assauts de l'État islamique. La population kurde était très tournée vers les positions du PKK qui opère dans le sud de la Turquie. Et donc c'était pendant très longtemps une zone de repli pour le PKK. Là aussi, on voit bien que la Turquie ne permettra pas de nouveau que le PKK d'Öcalan se réarme et soit une opposition militaire vraiment effective dans la région.
Oui. Robert, tu as peut-être un point de vue plus clair sur la situation ?
Non, c'est la question essentielle, c'est de savoir comment maintenant on peut faire remonter par exemple à l'ONU les intérêts en tant que nation non constituée mais nation quand même kurde, Et ce qui se passe en ce moment devrait inciter effectivement beaucoup de pays, notamment je pense aux pays d'Asie ou d'Amérique latine qui ne sont pas dans la démarche des Occidentaux, de peut-être poser la question kurde à l'ONU d'une façon plus forte en tant qu'entité à construire. Mais évidemment, ça soulève tellement de réticences et surtout ça met les pays Syrie, Irak, Iran, Turquie en difficulté. Ça les mettrait en difficulté encore plus grande qu'ils ne le sont actuellement. Mais pourtant, un jour ou l'autre, il faudra bien évoquer la question et la mettre réellement sur la table internationale.
Oui, si je peux finir, d'où les craintes effectivement de la Turquie, qui est la grande puissance régionale avec l'Iran, qui voit que des États comme l'Irak sont des États complètement faillis, qui sont en voie de démantèlement, alors que c'était des États centralisés et puissants, sous Saddam Hussein, qui voit que la Syrie de Bachar al-Assad l'était aussi, et qui est en voie aussi d'éclatement. Donc on voit bien que ces cas-là inquiètent fortement Téhéran moins, mais surtout Ankara, qui n'oublions pas, a une population de près de 20 millions, hein, de 18 à 20 millions, on estime, la population kurde au sein de la Turquie. Laisser s'implanter ou la création d'un piémont kurde, que ce soit la région d'Erbil en Irak ou bien cette région nord de la Syrie, c'est quelque chose qui sera une source de préoccupation dans le temps pour Ankara.
Voilà. On ne va pas en dire plus pour aujourd'hui sur ce sujet, on y reviendra forcément. Je remarque au passage que c'est vrai qu'on a réussi à évoquer pas mal d'interlocuteurs sans dire un mot de l'Iran, là tu viens d'en parler, qui lui aussi a un jeu à jouer dans l'affaire et un rôle. Ouais. Un autre endroit où la situation n'est guère plus simple, à défaut de l'être pas du tout, c'est le Yémen, où là aussi des affrontements un peu compliqués entre ce qu'on nous présente d'une manière simpliste entre les opposants chiites, les zédites, ils s'appellent là-bas, et puis le pouvoir sunnite, se tombe hier finalement sur un accord, le président acceptant de se séparer ou de changer de premier ministre et de signer un accord de paix dont on a l'impression que c'est un accord d'étape, mais que c'est loin d'être un accord définitif dans la mesure où ces chiites zédites souhaitent visiblement prendre, si ce n'est le pouvoir sur toute la région, du moins prendre la domination sur une partie de la région et éventuellement se séparer du reste du pays pour constituer eux-mêmes leur propre État, quoi. À moins qu'ils arrivent à subvertir le pouvoir central et carrément prendre le pouvoir sur tout le Yémen.
Oui, les Houthis, cette minorité chiite reste minoritaire hein, au Yémen. Mais ils ont marqué militairement ces derniers mois, ces dernières semaines, donc leur territoire. Juste à dire, effectivement, c'est la situation yéménite, c'est celle aussi d'un pays tribal qui, depuis sa réunification, a du mal donc à consolider son unité. Et on le voit aujourd'hui, là aussi, avec les intérêts qu'ont les puissances voisines, à savoir Riyad, qui d'aucune manière ne tolérera que les Houthis prennent le pouvoir, eux qui sont minoritaires au Yémen. Hein, les chiites, c'est vraiment la population à combattre hein, dans la péninsule arabique pour Riyad, et ils soutiendront coûte que coûte même si c'est effectivement des islamistes les islamistes sunnites au détriment donc de la minorité houthi. Mais là on voit bien que le pouvoir depuis qui était fort hein, sous Saleh qui a été destitué. Et le pouvoir était quelque chose qui, depuis la destitution de Saleh, et qui était, comment dirais-je, en partage hein, entre cette coalition en sens large qui s'est défait du dictateur, mais qu'aujourd'hui, effectivement, tout craque et dans un contexte, bien entendu, où économiquement, le pays va mal. Hein.
Oui, on peut aussi historiquement rappeler que le Yémen s'est trouvé à un moment donné de son histoire récente coupé en deux avec un Yémen communiste et puis avec la chute du mur, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique et du mouvement international communiste, eh bien la partie communiste a été reprise en main par les Occidentaux, enfin par le pouvoir conservateur avec l'aide des Occidentaux et tous les communistes ont été liquidés dans la plus grande indifférence complice des Occidentaux.
Oui, à rajouter qu'aujourd'hui on se bat pas pour le communisme, pour établir le communisme, mais dans le sud, anciennement le Yémen sud, il y a des velléités donc sécessionnistes très très fortes parce que de fait, depuis la réunification, tout le pouvoir est exercé par les tribus du nord, hein, par anciennement le Yémen nord, et ceci expliquant cela aussi.
Voilà, Robert, tu avais un autre sujet international que tu souhaitais évoquer.
Je m'interrogeais, mais peut-être que vous allez me donner l'explication, à défaut d'une justification. Qu'est allé faire le pape en Albanie? Alors là, je ne sais pas, il est allé bénir quoi, l'installation des Américains ou des mafias? Je m'interroge.
Il y a une petite minorité, lui, qui est quand même... Il faut vous rappeler que le pape, c'est le chef de l'Église catholique, hein, pas chrétienne, et qu'en Albanie, il y a quand même une minorité catholique, hein, lors de un peu moins de 10% de la population, et c'est quand même pas mal. Et surtout dans le nord du pays, dans la région de Shkodër, où vit la majorité de la population catholique. Il y a une minorité orthodoxe dans le sud, vers la frontière grecque, mais que quand même 80% de la population, rappelons-le, est musulmane hein, en Albanie. Alors, qu'est-il allé faire à Tirana, en Albanie? Eh bien, il aurait voulu, le pape, marquer son voyage donc par une réception à Belgrade, en Serbie. Et ça fait déjà 3 ans que le Vatican négocie donc ce voyage-là. Et de fait, il a une fin de non-recevoir de la part du patriarcat serbe, qui estime que tant que le Vatican n'aura pas présenté ses excuses officielles pour les massacres qui ont été commis sur la population serbe parce que orthodoxe pendant la Seconde Guerre mondiale par les Oustachis qui étaient des fervents catholiques et pour certains camps qui ont été tenus par les moines franciscains en Bosnie. Donc tant que ces excuses n'ont pas été formulées, il n'y a pas de possibilité donc de voyage à Belgrade pour le pape. Donc je pense que c'était aussi une forme de solution de repli. Il voulait marquer les Balkans et depuis 3 ans effectivement le Vatican a négocié donc ce voyage à Belgrade et je pense que de fait Tirana c'est juste une solution de repli.
Voilà, t'as ta réponse. Autre sujet, Michel, que tu avais envie d'aborder?
Juste un mot du Ebola du Liberia. Enfin, c'est pas tant Ebola que cette information que je trouve quand même assez invraisemblable de la part d'Obama disant qu'il allait envoyer 3000 soldats au Liberia pour combattre Ebola. Ça, c'est une décision qui est bien sage et on voit bien la pertinence. Bon, là aussi, on a compris que sous prétexte d'Ebola, c'est la volonté des États-Unis de mettre pied donc en Afrique occidentale et de contrôler cette région. Ils ont déjà pris pied au Djibouti, puisque maintenant les Français ne sont plus les seuls à disposer de bases militaires et navales à Djibouti. Ils doivent les partager avec les États-Unis. puisque les États-Unis étaient intéressés par la Corne d'Afrique, on le sait depuis longtemps. Aujourd'hui, la présence, soi-disant, pour combattre l'épidémie d'Ebola, elle vise avant tout à circoncire l'avancée donc économique des Chinois. Quand on regarde les chiffres, les Chinois investissent de manière exponentielle d'année en année dans la région, et il est clair que entre la menace islamiste et la menace des Chinois qui prennent de plus en plus de place dans l'économie africaine qui est amenée quand même à croître, les États-Unis ont compris que la première des choses, c'est la règle de l'art, avant que l'investissement américain arrive, il faut sécuriser, et on commence à envoyer donc les soldats. C'est, je pense, juste un avant-goût de ce qu'on va connaître dans les 10-15 années à venir, à savoir la construction en grand de camps militaires américains dans toute la région. Alors, on commence effectivement par le Liberia, fondé par des anciens esclaves américains, ne l'oublions pas, mais on va continuer, vous allez voir, bientôt, il y aura certainement des accords avec d'autres pays, et principalement, je pense, anglo-saxons. Il ne faut pas trop froisser non plus les Français dans la région.
Voilà, sujet à suivre. Deux brèves, peut-être, pour terminer cette rubrique internationale. Une session d'Assemblée générale de l'ONU sur la question de l'avortement dans le monde, qui reste toujours un sujet tabou dans beaucoup de pays. On estime, selon les gens de l'ONU, à 43 millions le nombre d'IVG dans le monde, dont la moitié mettent en danger la vie des femmes, c'est-à-dire sont faites dans des conditions de clandestinité avec les vieilles méthodes barbares que l'on connaît. 50 000 femmes mourraient tous les ans de ces pratiques. 8 millions en tireraient une invalidité, souvent la stérilité, quoi. Et donc il y a un problème mondial, on imagine mal qu'il puisse être résolu seulement dans l'enceinte de l'ONU, quand on sait les poids des religions sur ces questions comme ça, des morales religieuses, quoi. Il y a 500 décès sur 100 000 IVG en Afrique subsaharienne, c'est 800 fois plus qu'aux USA où l'IVG est légalisé, quoi. Donc voilà, il y a un certain nombre de gens, des praticiens, qui éditent un manifeste au sujet de l'IVG pour essayer d'obtenir sa généralisation légalisée dans le monde entier. Et puis aussi ces migrants qui, à l'est de Libye, c'est bon, de l'est de la Libye, cette nuit dernière, 40 disparus, 55 sauvés par la marine italienne. C'est un problème qui est quotidien, une rubrique qu'on pourrait tenir tous les jours avec quasiment un certain nombre de décès. Allez, courte pause musicale, on va la faire avec Brassens, puisque la date est de circonstance. On peut passer Brassens à Radio Canu, maintenant que Brassens est devenu l'idole des beaufs, tout le monde l'aime, alors allons-y.
Un 22 septembre, au diable vous partîtes. Et depuis chaque année, à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre, plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus autant des feuilles mortes, cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous. Que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Jadis s'ouvrant mes bras comme une paire d'ailes, je montais jusqu'au ciel pour suivre l'hirondelle et me romper les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Pieusement noué d'un bout de vos dentelles, j'avais sur ma fenêtre un bouquet d'immortelles que j'arrosais de pleurs en souvenir de vous. Je m'en vais les offrir.
Le 22 septembre, ça s'imposait sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce jour, donc avec Michel Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour évoquer la rubrique nationale et un petit peu européenne, puisqu'on a un Premier ministre qui a été voir Madame Merkel en Allemagne, deux jours, de notre Premier ministre pour calmer les Allemands. Sans rien leur promettre, en disant que le cap des réformes est le bon, que tout au plus on aimerait que en face de nos réformes il y a un plan de relance qui soit soutenu par l'Allemagne, et il se peut que Madame Merkel fasse un petit peu la sourde oreille. Voilà la France qui reste un pivot en face de l'Allemagne dans l'histoire de l'Union européenne, et on ne peut pas se passer l'un de l'autre, même si l'un est en meilleure santé que l'autre actuellement. Voilà, Robert, tu voulais dire aussi quelques mots sur le sujet ?
On imagine Valls rentrant droit dans ses bottes dans le bureau de Merkel et le visage farouche, lui disant « Non, madame, pas question d'austérité ». Je dis ça parce que pendant son discours d'investiture, il a tambouriné pour tenter de raccrocher la gauche hésitante du PS. Il avait, on s'en souvient, martelé « pas d'austérité, non à l'austérité, etc. » Alors, on l'imagine gardant ce même type de discours lorsqu'il franchit la porte de Merkel, mais on se doute bien que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, on a l'impression que c'est des visites qui servent absolument à rien, quoi, parce que elles peuvent simplement lui permettre à Valls de montrer que il prend en main aux côtés, ou peut-être même souhaite-t-il devant Hollande la responsabilité de la bataille économique en Europe. Et que sur ce créneau-là, il veut simplement rappeler qu'il est de ceux qui, effectivement, défendent une croissance dont, d'ailleurs, maintenant, on ne dit plus quel type de croissance. Et c'est d'ailleurs un grand problème, parce que il y a tout un combat qui se mène sur le thème de la croissance, croissance productiviste ou quelle ou une autre croissance. On n'en parle plus d'une autre croissance. On veut simplement croissance, croissance, croissance à tout prix. Et bon, c'est sur les ratios, ben évidemment, il a dit, pour faire de la croissance, on ne peut pas tenir les ratios européens, et ben il faut que vous l'acceptiez. Il a dit, bon, ben il faut que l'Allemagne accepte que la BCE ouvre sa bourse, comme elle l'a plus ou moins laissé entendre, avec l'accord de Juncker et de la Commission européenne. Voilà, bon, disons un rappel de part et d'autre, mais sans doute sans autre conséquence.
Voilà, pour ce sujet, sur le front social en France, plusieurs choses. Déjà, les paysans en colère à Morlaix qui qui ont déversé des tonnes de marchandises et qui ensuite ont foutu le feu à la mutualité sociale agricole. Je vois pas bien l'intérêt pour eux, mais enfin c'est comme ça. Et puis au bâtiment des impôts, ça on comprend peut-être mieux. Ils ont de quoi être en colère parce que ça fait des années, des mois, des années qu'on les trimballe sur l'amélioration des conditions de rémunération de leur travail et que rien n'avance, même si mercredi il y a une réunion de prévue qui était prévue d'avance avec le FOL sur ces questions-là. Évidemment, quand ils présentent les choses en disant qu'on leur paye 6 centimes d'euros le kilo d'échalotes et qu'on les retrouve jamais à moins de 6 euros au supermarché, on peut comprendre qu'il y a un rapport de 1 à 100 quand même entre le revenu du producteur et le revenu du vendeur final. On peut comprendre qu'il y a de quoi s'énerver pour ceux qui travaillent et qui produisent les fruits et légumes. Quoi.
Oui, mais on peut pas comprendre qu'ils s'en prennent aux impôts. C'est le système qui est à revoir. C'est là où c'est. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la chose agricole française, mais ce que je vois, c'est que ces agriculteurs sont soutenus par la FNSEA et que derrière, il y a une volonté, là aussi, de taper sur le gouvernement par bande interposée. Donc, on tape sur l'autel des impôts, mais d'aucune manière on ne vise à revoir un peu ce système-là, qui fait que du producteur au distributeur, on passe de 1 à 100.
Ouais. Ils n'ont pas brûlé de supermarché, ils ont été brûlés les bâtiments de l'État.
Ils auraient eu peut-être plus de nos concitoyens qui auraient fait la tape.
En tous les cas, ça aurait eu un autre sens politique, leur action. Quoi. Surtout la mutualité sociale agricole, les impôts. Bon, enfin, c'est classique, mais... Voilà, il y a Cadi qui est en dépôt de bilan, une filiale d'un groupe qui s'appelle Altia. 390 salariés sont dans la balance, qui pourraient bien passer du mauvais côté. Oui, Cadi, c'est les petits chariots que vous promenez dans les supermarchés. Cette boîte Altia, qui est financée, qui a reçu une aide de 20% de la BCE quand même, qui est gérée par des escrocs qui ont multiplié les exactions, aussi bien à leurs bénéfices en matière de salaire, de frais, que par exemple le fait de délocaliser les locations, on crée une société parallèle, on lui loue 200 euros, qui loue 200 euros le mètre carré à la société Cadi, qui alors que le prix de marché est de 30 euros par exemple pour de telles locations, on voit comment comme ça on coule une boîte très facilement quand on veut s'en débarrasser en ayant pressé le citron le plus longtemps possible et le plus possible. Donc le tribunal de commerce va statuer, je crois que les salariés n'ont pas trop d'illusions sur le sort qui va leur être fait. Quoi. Puis Air France qui est toujours en grève, une grève dont on ne sait pas trop que penser, grève corporatiste de privilégiés, dernière lutte pour l'emploi en France contre l'emploi délocalisé dans des zones où les charges sont moins élevées. Il y a des deux là-dedans, il y a même le personnel au sol, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pilotes, qui pensent qu'ils pourraient aussi faire les frais de ces délocalisations. Et il y avait un projet de créer une boîte au Portugal, où les conditions sociales ne sont pas du tout les mêmes, et puis de mettre des contrats de travail de tous les gens sur le Portugal, donc avec des conditions très différentes. La direction a tenté une reculade aujourd'hui, mais disons que le subterfuge n'a pas marché. Ils ont décidé de reporter à 3 mois la décision de monter ce projet. Les pilotes pensent que c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'ils veulent, c'est que des conditions soient discutées pour une filiale à moindre coût, à bas coût, comme ils disent, pas en Arménie, à bas coût en France. Quoi. Il paraît que Air France perd 10 à 15 millions par jour, qu'à ce rythme-là, le déficit de la société va forcément s'aggraver.
Ils savent ce qu'ils font quand même en direction de la France.
Ils font leur choix.
N'oublions jamais, effectivement, on ne sait pas quoi penser d'une grève, les corporatistes, les pas, etc. Aujourd'hui, malheureusement, dans un univers d'emploi précarisé, ceux qui font grève et ceux qui ont un impact, c'est ceux qui ont un emploi au statut. Alors, que penser, effectivement, de la grève des pilotes qui gagnent bien leur vie, mais qui ont aussi les moyens d'anticiper les politiques d'Air France et de voir que ça peut se jouer contre eux. C'est, nous ne l'oublions jamais non plus, quelque part, hein, ce sont des travailleurs privilégiés, mais des travailleurs, et en sauvegardant aussi leur privilège, entre gros guillemets, ils œuvrent aussi pour la collectivité, parce qu'à ce rythme-là, à force de précariser le travail, d'accepter, oui, il est clair que ça joue contre la majorité.
Alors d'autres nantis, ceux-là, alors en ont point douté, c'est les chambres de commerce et d'industrie, hein, qui se font des sommes, qui se remplissent les poches avec les cotisations diverses et les aides de l'État, et qui hurlent à l'égorgement parce que l'État veut prélever 500 millions d'euros sur des réserves dont j'ai plus le chiffre en tête, mais le progrès nous les a donnés il n'y a pas très longtemps. C'est assez astronomique, quoi. Alors ils font comme les huissiers, comme les autres, ils pleurent et ils déclarent que dans ces conditions, ils vont licencier 7000 de leurs 26000 salariés. On se demande bien ce qu'ils font, les 26000, là. Il doit y avoir pas mal de planqués. Peut-être qu'avec 7000 de moins, il y aura encore plus de boulot de fait. Et puis, ils font aussi du chantage aux apprentis, puisque dans ces conditions, disent-ils, on ne pourra plus subventionner, enfin aider, créer les apprentissages, les écoles et autres, et que ce sera encore plus catastrophique. À un moment où, côté des apprentis, le gouvernement déclare vouloir mettre 8 millions d'euros dans la balance pour monter en France à 500 000 apprentis alors que le nombre diminue. Il y aurait une aide de 1 000 euros par an par apprenti pour les sociétés et de 2 000 euros pour les PME jusqu'en 2025. En France, il y a 10% de jeunes en apprenti. En Allemagne, ils sont 25%. Voilà. Robert, as-tu un autre sujet que tu voulais aborder ?
Deux sujets brefs, parce que effectivement, on n'en tire jamais les conséquences. C'est d'abord l'habituel rapport sur la fraude à la sécurité sociale et comme d'habitude, eh bien c'est par milliards que le patronat fraude, 24 milliards de cotisations patronales qui échappent au fisc. Et puis notre dispersion d'argent qui est importante, c'est à propos des autoroutes. Alors là, c'est un rapport de l'autorité de la concurrence, mais qui n'a aucune autorité, visiblement, et qui met en évidence les énormes profits des boîtes comme Eiffage, Vinci ou Abritis. C'est par 10 ou 15 ou 20% que se cumulent les gains des sociétés autoroutières depuis leur privatisation sous le gouvernement Villepin-Breton dans les années 2005-2006.
Quelques brèves, les élections sénatoriales pour la moitié du Sénat ont lieu dimanche, 6 voix majoritaires pour la gauche actuellement, le Sénat devrait basculer à droite. Et puis quelques infos, Pasqua et Santini, les deux compères, se retrouvent à nouveau en appel devant les tribunaux pour les détournements de fonds qu'ils ont opérés avec la fondation d'art Jean Hamon. On évoquera aussi d'un court mot la mort de Bergeron, cofondateur de France Ouvrière, 28 ans à la tête, il est mort à 90 ans. Force Ouvrière qui, dans sa fondation, on sait à peu près maintenant que cette structure, ce syndicat concurrent de la CGT, avait été fondé à l'initiative un petit peu et avec le soutien financier de la CIA. La semaine dernière, on avait oublié de vous signaler la disparition d'Antoine Duhamel, musicien lyonnais d'origine, et puis bien connu à Lyon, musicien classique. Voilà, ce Canu Info se termine. On dira d'un mot qu'on attendait de voir Sarkozy arriver avec son costume de bagnard. Eh bien non, finalement, il avait revêtu un habit de premier communiant et ça lui allait très mal. Voilà, si vous avez encore un petit sujet, on a 2 minutes, sinon on met un peu de musique.
Et on peut simplement, effectivement, sur Sarkozy, considérer qu'il va tout faire pour essayer d'empêcher la justice de mener à terme les enquêtes ou même les mises en examen, puisqu'il y en a une qui le concerne. C'est comme dit beaucoup, comme on peut le lire, c'est vraiment une politique d'atteinte à la démocratie. L'Humanité titrait aujourd'hui « Retour de Sarkozy, symptôme d'une démocratie malade ». Je voulais dire aussi deux titres de livres, sans les commenter. C'est d'une part « Une vie en lettres » de George Orwell, 1903-1950, et d'autre part, c'est « Se révolter si nécessaire », c'est le titre d'un ouvrage de Howard Zinn. Howard Zinn, on en parle souvent à la radio, « Textes et discours » de 1952 à 2010, et c'est publié aux éditions Agone.
Voilà, ce Canu Info se termine, il sera rediffusé demain matin à 8h et sur Internet, vous devriez pouvoir le réécouter dès ce soir sur le blog des Canu Info de Radio Canu. Bonsoir et rendez-vous lundi prochain.